Festival de musique sacrée de Rocamadour, le magazine, Éric Dupri.
Bonjour à tous, bienvenue à Rocamadour pour ce rendez-vous quotidien avec l'un des musiciens programmés lors du Festival 2024. Je m'entretiens aujourd'hui avec le claveciniste et organiste Sébastien Dossé, directeur artistique de l'ensemble Correspondance, une formation qu'il a fondée il y a 15 ans et avec laquelle il est en concert ce jeudi soir à 21h en la basilique Saint-Sauveur. Le programme est sous-titré « Gloria Sveciae » et vous allez y accompagner la chanteuse, l'alto Lucille Richardot. Bonjour Sébastien Dossé et merci d'être au rendez-vous pour les auditeurs de Radio Présence.
Bonjour, avec plaisir.
C'est pas une première pour vous et votre ensemble à Rocamadour puisque vous étiez déjà présent lors de l'édition précédente en 2023 et c'était aussi pour un concert à la basilique Saint-Sauveur avec un programme largement dédié à Dietrich Buxtehude. Quel souvenir gardez-vous de cette soirée et de la découverte du lieu de cet édifice?
Je garde l'idée d'un concert qui n'était pas complètement conventionnel. D'habitude, vous savez, les musiciens se placent devant le public et puis les gens sont bien alignés jusqu'au fond de la nef. Et la plupart du temps, ça se passe comme ça pour les festivals quand on joue dans une église. Là, j'ai le souvenir de quelque chose de très chaleureux où tous les musiciens étaient au centre de la basilique et le public tout autour. Donc il y avait pour nous déjà quelque chose de particulier pour les musiciens parce que d'habitude, les musiciens me font tous face et puis le public est dans mon dos. Là, j'étais entouré par les musiciens, je n'étais qu'un élément du cercle et puis des gens devant, sur les côtés et derrière nous. Et je sais pas, ça a fait une ambiance très particulière. Alors, il fait très chaud aussi, je dois dire. Mais ça a créé quelque chose d'atypique et puis de très chaleureux et ouais, une manière de partager la musique un tout petit peu différente de d'habitude.
Qu'est-ce que vous aviez pensé de l'acoustique de la basilique que vous découvriez ?
Ben, l'acoustique, elle était absolument parfaite pour la musique qu'on jouait parce qu'on était une petite équipe de chanteurs, quelques instrumentistes. D'ailleurs, on est dans un effectif à peu près similaire cette année et je crois que c'est assez parfait parce que entre nous, d'abord, la sensation pour les musiciens est qu'on s'entend très bien, que tout communique de façon très fluide. Donc ça, c'est hyper agréable parce qu'il y a des endroits où ça sonne bien pour le public mais pas bien pour les musiciens. Là, c'est d'abord très bien pour les musiciens et c'est ensuite très bien, je crois, pour le public, parce que cette proximité fait que, allez, on est baigné dans le son et on a l'air vraiment de boire les paroles aux lèvres des chanteurs.
Alors je peux confirmer que ce concert est resté dans les mémoires. Vous aviez reçu un très très bon accueil du public amadourien. La preuve, vous revenez cette année. Alors, je voudrais qu'on parle de Correspondance. Hein. C'est le titre d'un sonnet célèbre de Baudelaire et c'est en référence à ce poème que vous avez donné ce nom à votre ensemble. L'auteur des Fleurs du Mal voyait des correspondances entre le monde sensible, le monde matériel et le monde spirituel. Concernant votre formation, de quelle correspondance s'agit-il ?
Celle que vous décrivez, c'était parfaitement ça. Enfin, moi, l'idée, c'était de plutôt que d'avoir une référence à quelque chose de baroque, du XVIIe siècle, d'ancien, ou d'un nom de divertissement, je sais pas. Moi, c'était l'idée de qu'est-ce que c'est notre projet en tant qu'interprète aujourd'hui, à notre petit niveau. Je crois que c'est simplement de partager, de façonner quelque chose de beau, de délicat, voilà, de réfléchi aussi, et puis partager ça avec le public, avec quand même derrière l'idée qu'il se passe un phénomène, on pourrait dire, d'élévation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va nous sortir de l'ordinaire, qui va nous sortir du quotidien et qui nous fait entrevoir quelque chose de, voilà, une sorte de réalité supérieure. Alors je le dis indépendamment de quelque chose de religieux. Ça peut être ça, mais ça peut ne pas être ça aussi. Et je crois que la musique a ce pouvoir-là de nous faire toucher à quelque chose qui nous dépasse. Et j'aimais bien cette idée de projet collectif pour moi et les musiciens, se dire, voilà, on prépare avec beaucoup de soin, beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour de quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et au moment de le partager avec le public, il se passe ce phénomène-là. Alors, je trouve que c'était un bon projet de vie pour moi.
On peut dire aussi qu'on peut voir des correspondances entre la musique et d'autres formes d'art. Et d'ailleurs, certains de vos projets se sont concrétisés par des collaborations de ce type.
Absolument. Baudelaire dit qu'il y a vraiment les deux correspondances. C'est-à-dire qu'il dit que l'ouïe, la vue, tous les sens se répondent. Donc, c'est cette idée-là. Et puis, il y a cette idée que ça nous fait toucher à quelque chose de supérieur. Il y a vraiment l'idée. Donc, vous avez raison. Et puis, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup aussi la collaboration avec d'autres artistes. Non pas que je crains d'être enfermé dans le XVIIe siècle, parce que je vis pleinement au XXIe, mais tout ce qui a été créé au XVIIe me touche beaucoup, sans aucune nostalgie de ce qui se passait à ce moment-là, parce que malheureusement, ça aurait été moins drôle pour nous. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, cette circulation de la musique avec d'autres arts, elle est aussi très enrichissante pour nous et elle nous permet de, voilà, d'être très ancrée dans notre temps.
Alors, puisque vous parlez du XVIIe siècle que vous aimez beaucoup, on va parler du répertoire de correspondance. Il me semble qu'il s'est pas mal élargi depuis 15 ans, même si la musique baroque française du grand siècle du XVIIe y prédomine, et ce depuis la fondation de l'ensemble.
Oui, absolument. Bah, je pense que c'est ma passion première. Je voue un culte infini à Marc-Antoine Charpentier. J'adore passer du temps à comprendre tout son univers musical, de là où il vient. J'adore le travail sur le grand répertoire des cathédrales. Tout ce répertoire du XVIIe siècle, il révèle un siècle qui a été un siècle de recherche, de fantaisie, de grande richesse aussi. Et donc voilà, moi, c'est vrai que c'est une colonne vertébrale à laquelle je me tiens encore, parce que je trouve que ça nous enrichit toujours, encore une fois, aujourd'hui, au XXIe siècle, d'entrevoir tout cet aspect créatif du grand siècle. Alors maintenant, effectivement, je pense que ça nous a aussi donné une identité sonore en tant qu'ensemble. Là, juste avant qu'on se parle, quelqu'un m'a écrit « Ah, j'ai entendu à la radio un extrait de concert » et j'ai tout de suite reconnu que c'était correspondance. Ça me fait très plaisir, évidemment, parce que ça veut dire qu'on a une patte sonore. Ben voilà, qui s'est aussi beaucoup façonné avec ce répertoire français du XVIIe, tant et si bien que parfois les Allemands, quand on joue la musique de Buxtehude, ils disent « Ah, c'est Buxtehude, c'est le charpentier allemand ». Bon, voilà, ce que je veux dire, c'est que ça nous a aussi donné une identité très nette et qui nous permet, parce qu'on a cette solidité-là aussi, de fréquenter d'autres répertoires et puis d'y apporter forcément quelque chose qui va être un peu particulier, un peu original, du fait de ce socle très fort sur le plan sonore.
À propos de Marc-Antoine Charpentier, il semble que vous n'ayez toujours pas fait le tour de son œuvre, puisque le dernier CD paru en 2023, mais lui est consacré à sa messe de minuit, entre autres. Mais il y a déjà eu beaucoup d'autres CD enregistrés d'œuvres de Marc-Antoine Charpentier. Il y en aura encore d'autres ?
Bah, il y en aura encore d'autres, évidemment, parce que, vous savez, c'est un des compositeurs qui a laissé le plus d'œuvres. Non pas qu'il ait composé plus que les autres, mais il a conservé sa musique. Donc, on a beaucoup de traces de toute son œuvre. Donc oui, et puis qu'est-ce qui fait que l'intérêt est censé être renouvelé ? Par exemple, là, on vient de créer cette saison, puis on le reprendra encore la saison prochaine, un opéra biblique, David et Jonathan. La partition est une splendeur de A à Z. Mais ce que je veux dire, c'est que chez Charpentier, tout est exceptionnel, tout est comme des prototypes. Par exemple, un opéra biblique, c'est quelque chose de très rare à l'époque. Il fait David et Jonathan, mais il ne reproduit pas. Le suivant, ce sera Médée. Donc, ce que je veux dire, c'est que chez Charpentier, il y a toujours cette recherche infinie, comme un inventeur génial, qui passe de prototype en prototype et qui permet, 4 siècles après, aux musiciens de ne jamais s'ennuyer avec son œuvre. Quand on a joué un opéra, on ne connaît pas les suivants. On repart de zéro. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui me fait dire que... Alors, au bout de 15 ans, vous voyez, je me suis jamais posé la question de cette lassitude. Donc probablement, on se reparlera dans 10 ans encore et je serai toujours aussi passionné.
Cela dit, vous ne vous êtes pas intéressé qu'à Marc-Antoine Charpentier. Il y a aussi des œuvres de Michel Richard de Lalande, des pièces de Jean de Campfort, donc de compositeurs nettement moins connus du grand public. Il y a encore beaucoup de choses à explorer dans ce grand siècle français.
Dès qu'on est curieux, je pense que... Oui, un interprète aujourd'hui, c'est quoi son pouvoir ? C'est de, au moment du concert, de faire de la musique. Bon, très bien. Un peu de notoriété, on fait la couverture de magazines qui se vendent à quelques milliers d'exemplaires, donc c'est pas fameux. Non, je dirais que le seul véritable pouvoir d'un interprète aujourd'hui, c'est d'être un éditeur. C'est de croire absolument en une partition, en un musicien, en un compositeur, en un objet sonore, de l'incarner et de le partager avec le public. Comme si vous étiez éditeur littéraire, vous recevez le manuscrit de quelqu'un de totalement inconnu, mais vous avez le discernement, le goût, le jugement qui vous permet de, voilà, d'être sûr de vous et de le partager avec les autres. Et bien, je crois que c'est exactement ce qu'on a, nous, comme interprètes. À partir du moment où je lis telle musique de, je sais pas, Étienne Moulinier, bon, effectivement, compositeur mal connu aujourd'hui, mais moi, je suis certain que cette musique, elle vaut vraiment son pesant d'or, qu'elle parle aujourd'hui. Alors, à moins de convaincre les organisateurs de concerts ou les directeurs de labels discographiques, pour pouvoir partager ça avec le public. Et moi, c'est vrai qu'une de mes grandes joies, c'est quand un étudiant vient me voir en me disant « Vraiment, j'adore Étienne Moulinier et je l'ai connu grâce à vous ». C'est vraiment quelque chose qui me ravit parce que je me dis que voilà, le goût, qu'est-ce qui fait qu'on devrait aimer plus Beethoven qu'Étienne Moulinier ? C'est la tradition, c'est le fait que ça ait toujours été comme ça et qu'il faut que ça continue comme ça. Oui, mais à chaque siècle, à chaque moment, va parler ou non un répertoire. On est peut-être aujourd'hui plus sensible à la musique baroque qu'à la musique romantique. Mais dans les années 1950, c'était le contraire. Donc ce que je veux dire, c'est que ça permet aussi au répertoire de rester toujours vivant. Et puis voilà, ce c'est aussi très satisfaisant de déceler quelque chose et de partager cette passion ensuite.
Eh bien, pour illustrer tout ce que vous venez de dire et cette prédominance du baroque français dans le répertoire de l'ensemble Correspondance, je propose qu'on écoute une très belle pièce, non pas de Marc-Antoine Charpentier, mais de Jean de Cambefort, bien moins connu que le premier, extraite du très beau CD « Le concert royal de la nuit » paru en 2015 sous le label Harmonia Mundi. Languissante clarté, vous allez entendre la magnifique voix d'alto de Lucile Richardot. Languissante clarté, pièce composée par Jean de Cambefort, chantée par Lucile Richardot, accompagnée par les musiciens de l'ensemble Correspondance, un extrait du CD Le Concert Royal de la Nuit, paru en 2015 sous le label Harmonia Mundi. Pendant qu'on y est, un mot sur Lucile Richardot, il y a déjà pas mal d'années que vous collaborez avec elle.
Oui, Lucile, c'est une artiste incroyable que j'ai connue quand je commençais à jouer de l'orgue de façon professionnelle, à être continuiste dans différents ensembles. Et Lucile, à ce moment-là, était une choriste. Et voilà, on s'est déjà très bien entendu, mais c'est aussi quelqu'un dont on remarque tout de suite la force, l'originalité du timbre de la voix. Et voilà, on s'est plus quitté depuis. Et dans un parcours, vous savez, il y a toujours des rencontres, des artistes qui sont évidemment plus marquants que d'autres, et clairement Lucile est celle-là. Et puis voilà, on a fait notre premier projet ensemble avec de la musique anglaise totalement inconnue du 17e, qui s'appelait Perpetual Night. Donc ça, c'était il y a quelques années. Et voilà, ce projet suédois est le second dans notre parcours commun.
Oui, très forte personnalité artistique et très forte personnalité tout court que Lucile Richardot. Alors donc, vous venez de le dire, pas de baroque français pour le concert que vous donnez ce jeudi soir à 21h à la Basilique Saint-Sauveur de Rocamadour, avec ce programme intitulé Gloria Svesiae, un titre intrigant puisque si on le traduit du latin en français, il signifie « la gloire de la Suède ». Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va y entendre de la musique de compositeurs suédois? Mais non, pas vraiment. Expliquez-nous un peu de quoi il retourne.
D'abord, la motivation première, c'est que Lucile est un tel cerveau et un tel esprit qu'on ne peut pas faire quelque chose qu'elle connaît déjà. Parce que sinon, c'est couru d'avance, ça va être compliqué. Donc, je suis obligé toujours de trouver des choses inconnues et pour qu'on puisse vraiment travailler ensemble dessus. Alors, ce qui est important de dire, c'est que Lucile n'est pas comme une chanteuse ordinaire qui se satisferait de recevoir un programme, les partitions, et de les travailler pour ensuite les enregistrer. Lucile, elle participe avec moi aux recherches. Que ce soit pour ce projet anglais il y a quelques années ou ce projet suédois, on passe du temps ensemble à la bibliothèque, on lit des choses dans les petits studios avec piano, on échange vraiment sur le façonnage de ce projet et je crois qu'on vraiment le partage à 50-50. Alors, moi, je pensais que toute cette musique baroque du nord de l'Europe, simplement, je n'aurais rien su en dire avant de commencer à travailler dessus. Donc, c'est quelque chose qu'on ignore pas mal. Alors, en quelques mots, la cour de Suède, la cour de Stockholm, elle est un peu l'inverse de Versailles. À Versailles, on est à la fois centrifuge et centripète. C'est-à-dire qu'on fait venir le meilleur du meilleur des musiciens du royaume pour ensuite pouvoir exporter des modèles. C'est un système qu'on va retrouver par ailleurs dans l'industrie, dans le luxe, etc. C'est quelque chose qui a été vraiment à la base de système de centralisation à la française. Stockholm, c'est exactement l'inverse. À Stockholm, on se dit, on va faire venir les gens qui passeront et qui seront les meilleurs. Et s'ils sont vraiment très bons, on va les retenir. Alors, on ne cherche pas du tout à ériger des modèles. On ne cherche pas du tout à imposer à l'Europe. On cherche simplement à se faire plaisir en musique avec les meilleurs musiciens qu'on peut attirer ou qui passent par là. Donc la cour de Stockholm, elle est un petit peu comme un hub aujourd'hui, mais ce sont des parcours de musiciens très cosmopolites, très mélangés, beaucoup d'Allemands bien sûr, parce qu'on est dans cette région de la Baltique, beaucoup d'Italiens parce que un des cœurs de la musique au XVIIe siècle, c'est Venise, c'est Rome, c'est Naples, et puis ces mélanges d'artistes qui passent de Stockholm, qui vont ensuite au Danemark, qui retournent ensuite en Allemagne, qui sont parfois des Français, parfois des Anglais. Il y a vraiment cette mixité incroyable et qui donne des créations très étonnantes de la part de tous ces compositeurs.
Alors, ce seront des pièces sacrées et profanes ?
Oui, alors essentiellement sacrées quand même, mais c'est un mélange en fait de ce que j'ai trouvé de plus déjà de plus adapté à la voix de Lucille, parce que c'est quand même une voix, encore une fois, assez hors norme. C'est plus difficile de trouver des pièces parfaites pour cette voix-là que pour une soprane ordinaire. Le second paramètre pour moi, c'est de trouver des pièces qui soient représentatives de cet endroit en particulier et de trouver des musiques qui soient les plus originales et les plus percutantes, on pourrait dire, pour révéler ce que c'était que cette musique à Stockholm à la fin du XVIIe siècle. Alors, j'ai trouvé pas mal de choses vraiment magnifiques, je crois, mais je suis particulièrement content d'avoir trouvé les toutes premières pièces composées en langue suédoise, sachant qu'à cette époque-là, on composait surtout en italien ou en allemand. Donc là, j'ai trouvé très étrangement sous la plume d'un Italien, Albrecht, les toutes premières pièces composées en langue suédoise. Donc Lucille, pour l'occasion, a appris à prononcer le suédois, ce qui était très drôle.
J'imagine. Oui, alors effectivement, quand on regarde la liste des compositeurs au programme de ce concert, il y a Albrecht que vous venez de citer, Thunder, Ritter, Peranda, Krieger, Pohle. Donc il y a pas mal d'Allemands, semble-t-il.
Voilà, les Allemands et les Italiens, je pense que c'est vraiment les principaux voyageurs de
cette époque.
Les Allemands pour des raisons géographiques, c'est-à-dire que ils sont proches, c'est la côte.
Oui.
Et beaucoup de compositeurs, dont Buxtehude d'ailleurs, passent régulièrement du Danemark à la Suède, etc. Dans toutes ces zones de la Baltique, les musiciens sont amenés à voyager. Buxtehude, lui, entretenait toute une correspondance avec le maître de chapelle de la cour de Stockholm. Donc il y a vraiment ces liens assez naturels avec l'Allemagne, en tout cas l'Allemagne du Nord. Quant à l'Italie, elle est réputée depuis le début du siècle pour la qualité de ses chanteurs, de ses compositeurs. Et donc ce sont généralement des gens qui commencent à voyager, et Peranda par exemple était venu à la cour de Stockholm en tant que chanteur, en tant que contre-ténor, et puis finalement il y est resté même plusieurs années où il s'est établi à la fois comme chanteur mais aussi comme compositeur. Donc c'est aussi l'occasion pour tous ces musiciens de conquérir un marché qu'ils n'auraient peut-être pas eu de la même façon dans leur pays, et d'arriver avec une aura particulière à la cour de Suède.
Oui, alors il y a tout de même un nom connu hein, parmi les compositeurs au programme de Gloria Sveciae, c'est Bach, mais c'est pas Jean-Sébastien, c'est Johann Christoph.
C'est Johann Christoph, donc c'est un membre de la famille Bach, un éminent membre de la famille Bach, et c'est un motet qui est vraiment une splendeur absolue et qui est assez connu pour le coup, puisque ça a été vraiment un must pour tous les contre-ténors depuis maintenant quelques décennies. C'est-à-dire que Andreas Scholl, tous les grands contre-ténors du XXe siècle ont enregistré cette pièce qui est extraordinairement expressive. Et moi, ça me faisait plaisir de l'entendre enfin par une femme et par une mezzo. Et je crois que ça apporte quelque chose de très différent à cette pièce pourtant très connue.
Alors pour ceux qui se poseraient la question, Johann Christoph Bach, c'est le cousin germain du père de Jean-Sébastien. Voilà, pour le situer dans cette immense fratrie, famille des Bach. Alors ce programme n'ayant pas encore été enregistré, je n'ai pas d'aperçu à vous en donner. Alors je propose de vous faire entendre un extrait du programme de l'année dernière, un extrait du cycle de cantates Membra Jesu Nostri de Buxtehude, Ad Latu Surge, dans la version enregistrée par l'ensemble Correspondance et parue en 2021, toujours sous le label Harmonia Mundi. Ad Latus Surge, quatrième des sept cantates du cycle Membra Jesu Nostri, composé par Dietrich Buxtehude, extrait du CD enregistré par l'ensemble Correspondance en 2021 sous le label Harmonia Mundi. Et puisqu'on parle d'enregistrement, je propose qu'on termine cet entretien avec les projets que vous avez dans le domaine discographique. Est-ce qu'il y a des sorties prévues très bientôt? Peut-être justement La Gloire de la Suède.
Alors, ce ne sera pas notre tout prochain disque, même s'il est déjà enregistré depuis un petit moment. Ce sera le suivant. Et avant ça, on fera paraître là à la rentrée un programme autour du Requiem, de la Messe des Morts de Campra, de André Campra. Et à côté de ce sommet de la musique baroque française, j'ai choisi d'enregistrer tout un florilège de pièces beaucoup moins connues, de compositeurs qui, comme Campra, ont été les maîtres de Notre-Dame de Paris. Aussi pour fêter le retour de la cathédrale dans le paysage patrimonial français. Et j'ai trouvé toute une série de compositeurs. Alors, je peux vous en citer quelques noms, mais ils sont vraiment très peu connus, comme Jean Veillot, comme Cosset, comme Pierre Robert. Ce sont des grands artisans de la musique au XVIIe siècle qui ont composé pour la cathédrale de Paris et puis principalement pour les cathédrales. Alors, quand on pense musique sacrée et Louis XIV, on pense tout de suite à Versailles et à des motets très pompeux, très solennels. Et ce qui était amusant pour nous avec ce projet-là, c'était de voir toute la palette de couleurs de ce répertoire des cathédrales, qui est très très différent de la musique de la cour, parce que les cathédrales sont plutôt un lieu de tradition séculaire. On ne cherche pas la modernité à tout craint, et pour autant, tous les compositeurs qui s'y trouvent sont des gens d'un talent inestimable, comme de grands artisans de la musique, comme je vous disais tout à l'heure. Et je trouve que la musique qui en sort et nous projette dans un univers alors vraiment très différent de celui de Louis XIV, de celui de la cour, même si ça date de la même époque. Et je crois que c'est quelque chose qu'on connaît vraiment très peu et qui est vraiment assez fascinant.
Ce disque est à paraître à quel horizon ?
Je crois que c'est à l'automne, début d'automne, septembre ou octobre, toujours chez Harmonia Mundi.
Et bien donc c'est pour très bientôt. Merci Sébastien Dossé. Je rappelle que vous êtes en concert ce jeudi 22 août à 21h à la Basilique Saint-Sauveur de Rocamadour avec l'ensemble Correspondance et la chanteuse Lucille Richardot. Le programme a pour titre Gloria Sveciae et la billetterie est en ligne à l'adresse www.rocamadourfestival.com. Merci d'être fidèle à notre écoute chaque début d'après-midi pour ces rendez-vous avec les musiciens invités au Festival de Rocamadour 2024. Très bon après-midi à tous sur Radio Présence.